on a soulevé le problème du salut. Je pense peut-être que c'est un beau simpliste de dire ça, mais je pense pas seulement qu'il y a une différence entre l'école franciscaine et l'école dominicaine. Aussi, peut-être qu'il y a une différence ou plutôt préférence entre les orthodoxes et les catholiques. Parce que pour les catholiques, c'est plutôt le salut justificatif.
Oui,
c'est le lien de Saint-Augustin. C'est peut-être moyen, Saint-Anselme. Et petit à petit, ce point de vue est devenu un peu la doctrine officielle de l'Église catholique romaine. Mais pour les orthodoxes, appuyé sur certains pères de l'Église, par exemple Saint-Grégoire de Nice, c'est plutôt le salut sanctificatif. Christ est venu pour sanctifier l'homme. Et peut-être inconsciemment, l'école franciscaine rejoint plutôt à côté orthodoxe. Je pense un peu simpliste de dire ça, parce que même il y a la diversité en l'intérieur de l'Église catholique romaine. Mais peut-être sur ce point-là, et aussi il y a d'autres raisons. Comme vous avez souligné.
Oui, Martin, vous avez raison. Oui. Je pense que, en fait, ce que vous dites rejoint le fait, alors dans le cas de Bonaventure, c'est très clair, Bonaventure est l'un des plus grecs, si je puis dire, du XIIIe siècle. À tel point que c'est lui qui a été chargé par le pape, je ne sais plus lequel, mais peut-être on se souvient, de préparer, je regarde le père Luc, c'est Grégoire X qui l'a chargé de préparer le concile de Lyon, de 1274, pendant lequel il est mort et où Bonaventure a eu la joie d'entendre les Grecs et les Latins dire ensemble le credo. Voilà. Donc effectivement, pour lui, la question de la conciliation, encore une fois, non pas pour abolir les différences, parce qu'il dit bien il y a des différences de langage, il n'y a pas de raison de forcer les Grecs à parler ainsi ou de forcer les Latins à parler autrement. Mais la question de la concorde, l'accord des cœurs, hein, étymologiquement, entre les Grecs et les Latins, était extrêmement importante pour lui. Et donc je pense qu'effectivement, il y a un lien entre ce souci de concorde et puis, la question du Christ rédempteur.
Il y a d'autres raisons, comme vous avez souligné, pour Saint Bonaventure, la ressemblance, cet accord, la ressemblance à la Trinité, c'est-à-dire à la personne de Dieu. Aussi, c'est plutôt à côté des orthodoxes, parce que pour les symboles simplistes de dire ça, mais je pense parfois ça dit quelque chose. Pour la théologie orientale, c'est la personne qui est primaire, qui est première. Mais pour la théologie latine, c'est plutôt l'essence commune qui est primaire.
Et oui, alors ça c'est peut-être un peu schématique pour le coup, mais enfin, je vois ce que vous voulez dire. Mais vous le dites bien dans votre.
Dans la théologie latine, on a privilégié l'abord du mystère de la Trinité, d'abord par l'unité de Dieu. C'est Dieu unique en trois personnes. Tandis que dans la pensée grecque traditionnelle, c'est à partir des trois personnes que l'on parvient à l'unité. Ce sont deux schémas qui ne se recouvrent pas, qui sont deux façons d'aborder la Sainte Trinité, et c'est vrai que pour Bonaventure, la Trinité des personnes prime. Pour une raison très simple, c'est que sans que l'on soit chrétien, on peut parler de Dieu. Mais de quel Dieu s'agit-il? C'est un Dieu anonyme. Or, pour Bonaventure, la révélation que le Fils fait de Dieu, c'est une révélation trinitaire. Or, Dieu est ce qu'il est et pas autre chose. C'est-à-dire que parler de Dieu sans évoquer la Trinité, pour Bonaventure, c'est parler d'un faux Dieu. Vous voyez ? Par exemple, dans une thèse qui était faite par le père Henri de la Valette sur Saint Thomas, sur l'appropriation chez Saint Thomas, il disait « Faisons abstraction des personnes et parlons de Dieu ». Et moi, quand j'avais soutenu ma thèse, j'avais dit, le père Valette était parmi mon jury, j'ai dit « Mais ce n'est pas pensable ». Dans la pensée franciscaine, on ne peut parler de Dieu que in concreto. Et dans les écrits de Saint François d'Assise, jamais le mot Dieu n'est employé absolument. C'est toujours Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ou c'est le Père, ou c'est le Fils, ou c'est l'Esprit. François ne dit jamais Dieu.
J'ai l'impression que cette question, en fait, c'est plus une question de réinterprétation moderne, disons, de la fin du 19e et du début du 20e. La thèse dont vous parliez, c'est celle de Régnon. qui a régné, enfin pour le coup cette thèse, les orthodoxes partent plutôt de la Trinité, vont à l'unité, les catholiques font l'inverse. Je me demande, c'est un peu une simplification des réinterprétations. Je crois que nos médiévaux, ils seraient assez d'accord. Ils ne parlent pas de l'essence divine philosophiquement. Ça aussi, c'est une réinterprétation moderne, en fait.
Cependant, vous avez quand même les textes de prière, qui sont très nets. Dans pas mal de textes liturgiques orientaux, précisément, on s'adresse au Père. Il n'y a pas l'expression très fréquente dans nos oraisons, Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre, etc. Ça ne vient pas. C'est Père qui a engendré ton Fils, etc., par lequel le monde est venu. Dans de nombreux textes liturgiques orientaux, on privilégie les personnes. À commencer, alors l'inverse, c'est le symbole dit de Saint Athanase, qui est un symbole latin, et qui au contraire s'efforce de mettre les trois personnes toujours sur le même plan.
Martin, peut-être il faut laisser la parole à d'autres personnes. On se parlera après.
Oui, allez-y. Oui.
Vous avez dit deux choses que je n'avais pas considérées. Je voulais savoir si vous pouviez préciser.
Oui.
Vous avez d'abord dit, comme deuxième raison pour expliquer l'opposition entre ce que disait Bonaventure et Latran sur la descendance qui était première ou seconde. Vous avez dit que la descendance, c'était d'abord le péché, profondément, et que du coup, ça ne pouvait pas être premier. Je me trompe peut-être. Et ensuite, vous avez rappelé que le Bonaventure ne pensait à la descendance qu'à partir de la Trinité.
Alors, en fait, j'ai commencé par le deuxième point que vous évoquez. C'est-à-dire, j'ai rappelé que la dissemblance, en un premier sens, c'est tout simplement l'altérité, la différence. De manière paradigmatique, la différence entre le Père et le Fils. Donc ça, c'est le premier sens de la dissemblance, c'est le sens positif, si vous voulez. Et ce sens-là, il est inclus dans le concept de ressemblance. On ne peut pas parler de ressemblance s'il n'y a pas deux éléments, deux personnes, deux choses. Et en particulier, une chose qui vient d'une autre, ou une personne qui vient d'une autre. Donc ça veut dire qu'il y a toujours en même temps un rapport asymétrique, une forme d'inégalité, si l'on veut, voilà. Alors, on a un petit aperçu de ça lorsque Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Alors, parfois, les théologiens s'en sortent en disant « Oui, mais il dit ça en tant qu'homme ». Moi, je ne crois pas. Il dit ça en tant que fils. Pour un fils, le Père est toujours plus grand parce qu'il vient de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, c'est le sens positif. Le deuxième sens de la dissemblance, qui, lui, n'est effectivement pas inclus dans la ressemblance, qui lui est contraire, c'est le péché. C'est le fait qu'on perd la ressemblance qu'on doit avoir avec Dieu, qu'on a reçue. Alors ça, c'est le péché. Et effectivement, j'ai dit que ce sens-là de la dissemblance est second, et que le péché lui-même est une réalité secondaire par rapport à la ressemblance. Pourquoi ? Parce que à l'origine, il n'y a pas de péché, et à la fin, il n'y en aura plus. Donc le péché, dans cette zone intermédiaire où nous sommes, et nous espérons qu'à un moment, il ne sera plus question de cette dissemblance au sens négatif du terme, et qu'il ne restera plus que la dissemblance au sens positif du terme, c'est-à-dire l'altérité, la différence, la relation, au fond. Est-ce que c'est plus clair ?
D'autres questions? Oui, Jean-François.
Je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais vous avez fait un livre sur la théologie symbolique de Saint Bonaventure, qui me semblait être en pur héritage de Denis, du pseudo-Denis, non? Non, peut-être pas, c'est pas ça?
Alors, en fait...
Je me trompe.
Non, mais je vous réponds très simplement. Si vous regardez dans l'introduction, si je me souviens bien, eh bien, je dis comment... La théologie symbolique chez Bonaventure est formée à partir d'un certain nombre d'écarts par rapport à la théologie symbolique de Denis. Parce que là encore, comme Bonaventure reprend les termes mêmes de Denis, on se dit bah, c'est un dionysien, c'est un disciple de Denis. Et puis en fait, quand on y regarde de plus près, on se dit mais en fait, il change totalement le sens que ce terme a chez Denis. Alors ça, il ne dit pas le contraire de Denis, pas du tout, il ne s'agit pas de dire le contraire, mais il dit autre chose. Aussi sur ce terrain-là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je suis aussi en train de le constater en ce moment sur la théologie mystique. C'est un peu le même phénomène. Ah, il y a André qui lève la main.
Oui. Est-ce que vous pourriez revenir sur quelque chose qui paraît fondamental à propos de la ressemblance? Vous dites à un moment qu'elle est un rapport, mais qu'elle n'est pas un tiers terme.
Oui.
Ça me paraît extrêmement important. J'aimerais bien vous développer
ça. Oui. Spontanément, quand on parle de ressemblance, comment je vais dire ça simplement? Ça, c'est un petit peu vache, André. Non, mais c'est un point extrêmement important parce qu'effectivement, c'est le point de départ de la différence entre le concept de ressemblance chez beaucoup d'auteurs et le concept de ressemblance chez Bonaventure. Oui.
Parce que ça recoupe le problème de la participation.
Oui, c'est vrai. En fait, oui, merci, c'est comme ça que je vais m'en sortir. Il est gentil, il me donne la chance. En fait, spontanément, on pense la question de la ressemblance sous l'angle de la participation. C'est-à-dire, on a deux choses qui ressemblent à une troisième. Par exemple, toutes les choses blanches, je ne sais pas, un papier blanc, une rose blanche, se ressemblent parce qu'elles ressemblent ensemble à une troisième qui est en fait première et qui est la blancheur. Ça va? Bon. Alors, ce sens de la ressemblance n'intéresse pas follement Bonaventure. Donc, systématiquement, il l'écarte. Et il dit, pour moi, la ressemblance, c'est plutôt le rapport d'un être à un autre qui le produit. Ce qui fait que ça n'est pas du tout la même situation, ça n'est pas du tout la même chose. On n'a plus trois termes, on n'en a plus que deux. Et dans ces deux termes, il n'y a pas d'égalité. Il y a une situation de minorité de l'un par rapport à l'autre. Une situation de dépendance absolument radicale. Voilà. Et c'est cela qui permet à Bonaventure de penser tout le reste. Donc effectivement, cette différence de définition du concept de ressemblance, qu'il rappelle très régulièrement, hein, dans le commentaire des sentences, ça revient très souvent. Et bien, cette différence de définition lui permet de penser le concept de ressemblance de manière originale, et sans le concept de participation. Effectivement.
Je voudrais, moi, quelques instants revenir à l'homme, au penseur, à l'intellectuel Bonaventure. Vous avez dit tout à l'heure... C'est pas un penseur polémique. Est-ce qu'il peut être pour nous, pour les intellectuels, quand on pense un peu à ce qui peut se passer dans les universités, les rapports entre les intellectuels, le sens de la propriété de leur œuvre, tout ça, est-ce qu'il peut y avoir un Bonaventure qui pourrait être modèle en termes de pratique intellectuelle, de vie est-ce que ça... Moi, j'ai l'impression que vous avez pris un petit peu de quelque chose de lui, d'une certaine manière, dans votre pratique.
J'espère.
On souhaiterait que vous le gardiez, quoi, je veux dire. Mais...
Au bout de tant d'années passées avec Bonaventure, j'espère que quelque chose de lui est passé en moi, vraiment, de ce point de vue-là. Mais je dirais, oui, bien sûr que de ce point de vue-là, on a à apprendre toujours d'auteurs pacifiques comme Bonaventure. Et en même temps, c'est un auteur pacifique, mais plein de vitalité. Mais comme le sont les médiévaux, de façon générale, quand je fais mon cours sur Thomas et Bonaventure à l'Institut catholique de Paris, j'insiste toujours sur le fait, sur la vitalité extraordinaire de l'université à l'époque et des exercices publics, les disputes par exemple. Enfin, je leur dis souvent, si aujourd'hui vos professeurs devaient faire ce genre de choses devant vous, mais on serait bien embêtés. Si on devait faire ça, si voilà, par exemple des questions code libétique, un étudiant pose une question et il faut aller tout de suite trouver une argumentation pro, une argumentation contra et ensuite faire une réponse. Enfin, c'est effroyablement difficile. Donc c'est une culture universitaire extrêmement exigeante. Mais effectivement, en même temps, ce qu'on voit avec Bonaventure, mais on le voit aussi bien avec Thomas. Qui a aussi cette humilité extraordinaire, c'est que cette exigence, cette vivacité dans les débats, Et puis il y a parfois effectivement aussi des polémiques, il y a des moments où le ton monte. Eh bien, malgré tout, c'est compatible tout simplement avec ce qu'on peut appeler la charité. Voilà. Ça, y a pas de... La charité, c'est pas de refuser des débats. Même, c'est plutôt le contraire. La charité nous presse plutôt de débattre d'un certain nombre de choses. Le but étant, mais ça, Platon le disait déjà, le but étant de tendre ensemble vers la vérité, non pas de faire du débat l'occasion de l'occasion d'écraser l'autre. Voilà. Cette règle, nous la connaissons depuis très longtemps. À chacun ensuite de l'appliquer, j'imagine. Mais Bonaventure, effectivement, comme Thomas, est un excellent modèle pour ça, c'est clair.
Encore une question? On arrête là?
Peut-être ça aurait été bien si Thierry Dominique avait dit un mot de son livre.
Ah voilà, j'avais dit tout à l'heure. Si,
non, bah, on est là pour le livre de l'or.
Tout petit quelque chose.
Mais je ne sais pas, par exemple...
On ne vous voit pas souvent ici.
Sur la question...
C'est vrai.
Sur la question de, je sais pas, de la minorité, par exemple, ou de l'autonomie, la promotion intégrale de l'autonomie aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que vous avez d'autres éclairages ou... une autre façon de voir le problème. Oui. Asseyez-vous.
Non, restez là. Non, ça m'intéressait votre histoire de minorité tout à l'heure appliquée à des situations plus modernes. Et le parallèle avec Kant était d'ailleurs extrêmement intéressant. Je crois qu'en effet, on est dans une situation globale de post-lumière où chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans tous les domaines sans aucune forme de dépendance objective. Ou même d'ailleurs finalement, le fait d'avoir des parents va devenir une option. Non, on pourra naître sans parents. On pourra naître dans une éprouvette avec des gens de même sexe. C'est en cours et ça se fera, car tout ce qui est techniquement possible se fera. Donc c'est déjà en train de se faire. Donc en effet, ce refus de toute dépendance, à quoi? À l'objectivité de... Ben, au fond de la vie parentale, et c'est celle qui ressemble le plus à la Trinité quand même, donc on est mal parti de ce point de vue, de dépendance à des valeurs familiales, à des valeurs familiales, à des principes objectifs qui fondent une société, à une éducation, à une culture, à une civilisation commune, c'est précisément ce qu'on essaie de s'aborder. Bon, il y a des intentions idéologiques très nettes, notamment finalement de manœuvrer des incultes. Donc d'établir une dictature finalement. Quand les gens n'ont plus de culture commune, on peut leur faire dire et penser ce qu'on veut. Donc là, je crois qu'en effet, rétablir les éléments positifs de la minorité, comme vous disiez, ça pourrait être extrêmement intéressant. Vous devriez faire un livre là-dessus.
Ah bah.
Ouais, non mais vraiment, j'y avais pas pensé comme ça, enfin, pas en ces termes. Vous voyez, des choses qu'on formalise pas sous cet aspect-là. Donc rétablir, pour reconstituer le lien social, les éléments positifs de toutes les formes de dépendance. On a tous besoin d'une famille à peu près normale, pour autant qu'elle puisse l'être. Mais enfin, il y a quand même du plus et du moins. Et donc il y a du plus aussi. On a besoin d'une éducation qui soit constructive et donne de véritables chances. Et les chances données aux jeunes, c'est pas de rabattre tout le monde au plus bas niveau, c'est d'élever le niveau général au contraire. Et nous savons combien, puisqu'on parle beaucoup de l'éducation en ce moment, quoi qu'il en soit des aménagements de l'école qu'on rabaisse de réforme en réforme, ce qu'on entend ces jours-ci, on l'a déjà entendu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, donc à chaque fois on descend d'une marche. De toute façon, on est dans un système inégalitaire. En plus, c'est hypocrite. Parce qu'à la fois, on veut mettre tout le monde au même niveau au plan de l'école, mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a l'école alsacienne, il y a Henri IV et Louis le Grand qui sont là, les trois lycées de France qui sont là pour l'éducation de l'élite de droite et de gauche. Ce sont des lycées qui échapperont à toutes les réformes de l'éducation nationale, où on fera une élite s'auto-reproduisant, qui n'aura plus rien à voir avec l'éducation des autres. Donc on est dans un système de caste, on est devenus des hindous, de ce point de vue, et non pas une république. Donc en plus c'est hypocrite. Donc eux auront la transmission. Eux auront le latin, le grec, l'histoire qui leur permettront d'aller dans les écoles où vous êtes passés. Et sauf exception, comme dirait Bourdieu, personne venu d'ailleurs ne pourra y entrer. Bon. Donc on est dans un système de caste. Ça veut dire qu'à certains, tout ce qui relève de la reproduction, de la ressemblance, donc de la possible minorité d'être sous la lumière d'un prédécesseur, à certains ce sera donné, à d'autres sera refusé. Il faut dénoncer ça.
C'est une honte que ce soit sous forme de caste, quand même. La grande réussite de la République laïque, c'était de permettre aux plus petits de devenir les plus grands. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Donc là, il y aurait des choses à dire, tout simplement. Enfin, et je pense qu'en effet, pour s'il faut parler de politique... En plus, je n'ai pas parlé de ça. De toute façon, la politique, moi, ça ne m'a jamais intéressé. Et je suis nul et ça ne m'intéresse pas. Donc d'abord, c'est pour ça que j'ai fait un bouquin. Mais je crois qu'il faut au moins manifester un peu les enjeux qui sont intellectuels, enfin qui sont idéologiques, si vous voulez, qui aujourd'hui, au fond, pour le dire, comme le dit Chantal Delsol quelque part, la vie politique est passée de la considération du social au sociétal. Le social, c'est les questions économiques et sociales. C'est-à-dire, longtemps, ça a été ça, le débat politique. Établir une économie qui marche et... faire progresser, disons, les avancées sociales. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, l'économie, d'abord, elle se mondialise, donc elle nous échappe complètement. C'est-à-dire que les vaches qui sont chez vous, vous en aurez si les petits Chinois vous en ont conservé le droit. Donc il n'y aura plus aucun rapport avec ce que vous aurez envie de faire et la mondialisation. Et puis, elle est fragilisée. On est dans une période de récession. Donc l'économie, aujourd'hui, elle nous échappe. Bon. Et d'autre part, les acquis sociaux, grosso modo, en tout cas dans des sociétés comme la nôtre, ça y est, c'est fait. C'est fait. Ensuite, on pinaille, parce qu'il faut pinailler sur le principe, mais les grands acquis sociaux, ils sont là, donc il n'y a plus rien à faire de neuf, finalement. Et donc c'est pour ça que l'intérêt, d'où la désertion des partis et des syndicats. Le débat se déporte sur les problèmes sociétaux, c'est-à-dire sur les problèmes de l'homme. Donc de la vie, de la mort, de l'amour. Et je me souviens... Il y a 5-6 ans, quelqu'un m'avait dit, qui n'est pas particulièrement mêlé de politique, il est probable que la gauche passera, pour un certain nombre de raisons. En économie, ils ne pourront rien faire, car d'abord, ils ont toujours été très mauvais en économie, et en plus, la situation internationale est impossible. Enfin, on est bloqué. Donc, ils se vengeront sur les questions sociétales, c'est-à-dire sur les questions de mœurs. C'est les seuls lieux où ils auront une marge de manœuvre, et là, ils pourront l'imposer. C'est exactement ce qui se passe. Donc, et c'est curieux parce qu'on pourrait attendre d'un État laïque qui soit très neutre sur les questions de l'homme, comme il est censé être neutre sur les questions de Dieu. Or, il n'est neutre ni sur Dieu ni sur l'homme, et ça va ensemble, puisque comme disait Sartre, il n'y a pas de nature humaine puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on refuse l'idée de nature humaine, puisqu'on est dans un État non pas neutre, mais athée, ce qui est tout à fait différent. C'est dogmatique, on est dans une théologie de la laïcité. Donc, on est en train de débattre sur l'avenir de l'homme, sur sa capacité d'être engendré, sur sa capacité d'aimer, enfin sur sa dignité, sur l'objectivité de sa dignité, ou sa reconnaissance par les autres seulement. Est-ce que je suis digne en vertu de mon humanité, ou est-ce que je suis digne parce qu'il y a un corps social qui dit que je suis un homme ? C'est la fameuse réductio ad Hitlerum, enfin, les juifs ne sont pas des hommes, puisque nous avons décidé, nous, nazis, vous ne le serez pas, mais on est en train de faire pareil. Vous n'avez pas le droit de vivre, puisque nous avons décidé que vous n'avez pas le droit de vivre. Donc là, il y a des débats sur l'homme qui sont extrêmement importants, et qui sont en fait des débats sur la minorité. Sur la minorité, c'est, est-ce qu'on dépend d'un Dieu, d'une création, d'une nature qu'il faut respecter et promouvoir, et ça vaut très bien pour l'écologie tout autant. Ou est-ce qu'il suffit de la détruire, de puiser dedans et de la détruire ? Les débats politiques qui sont là, plus que sur tout le reste, où j'allais dire les merveilleux techniciens que sont nos hommes politiques, parce que ce sont des gens de très haut niveau quand on y pense, qu'ils soient de droite ou de gauche, de toute façon ça n'a pas d'importance, ils ont fait les mêmes écoles en même temps, et après une journée à l'Assemblée nationale où ils se sont écharpés, ils vont manger ensemble au restaurant. Bon. Ils sont des mêmes promos de Sciences Po et de l'ENA, donc en fait ils pensent les mêmes choses, vivent dans les mêmes immeubles luxueux à Paris. Comme tous les partis politiques, vous remarquez que les partis politiques n'ont pas leur maison mère, si je puis dire, dans le 93 et dans les banlieues, mais dans les hôtels particuliers du 7e parisien. Ce qui donne le droit ensuite de penser le tiers-monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, il y a quand même des impostures majeures. Donc ce sont des gens qui sont de merveilleux techniciens. Mais au plan humain, c'est quand même très déficitaire. Moi, je pars de ça dans mon bouquin en disant le grand déficit aujourd'hui, c'est la qualité du discours humain des politiques, et pourtant ils n'arrêtent pas d'y toucher. Donc là, effectivement, les chrétiens ou les simples philosophes, les philosophes se lèvent en ce moment. Vous voyez, dans Le Point, Le Monde, Le Nouvel Obs, toutes les semaines, c'est Finkielkraut, c'est Michel Onfray, enfin, tout le monde y va de son petit couplet pour dire en gros sauvons l'homme. Alors que c'est des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, mais ils ont senti qu'il y avait quelque chose. Il faudrait que les chrétiens en fassent autant, et c'est quand même très timide. parce qu'on a un atavisme récent, depuis 50 ans, de timidité, de silence, il faut se taire, ne jamais apparaître, ne jamais rien dire, dire oui à tout le monde, c'est à ça qu'on nous reconnaît.
Il faut aussi pouvoir franchir la barrière médiatique.
Il faut aussi franchir la barrière médiatique, et c'est pas évident, donc semble-t-il, il y a des médias où il ne faut pas aller, parce qu'on se fera dézinguer, parce qu'il est nécessaire qu'il en soit ainsi, et puis il y en a où c'est possible. Donc il ne faut pas diaboliser non plus, ils sont même parfois fascinés par une parole autre. Pas longtemps, pas plus de 5 minutes, mais quand même. Et 5 minutes devant 20 millions de personnes, comme disait un jeune prêtre qui touche un peu aux médias, il dit, qu'est-ce que vous préférez, devant des prêtres, l'année dernière, qu'est-ce que vous préférez? Parler devant votre public paroissial, 175 personnes pendant 20 ans, ou devant 6 millions de personnes à la télé? Choisissez. Et là, je me suis dit, mince, il faudrait qu'on se sorte du trou un peu. Et là, de ce point de vue, je crois qu'on a des habitudes à changer, c'est-à-dire on a depuis 50 ans des habitudes de silence et de dissimulation parce qu'il faut heurter personne dans la société, il nous faut nous fondre dans la société. Mais non, on a aussi, nous sommes des citoyens, déjà on vote, et puis on a aussi notre parole à dire, et aujourd'hui nous sommes une minorité, mais alors dans le sens quantitatif, vous voyez, on n'est plus une majorité. Ben, il faut peut-être faire entendre sa voix, car théoriquement les minorités ont le droit de parole. À mon avis, ça ne vaudra pas pour la minorité catholique, mais enfin, puisqu'elle est catholique. Mais enfin, quand même, faire valoir une autre parole, donc une parole un peu riche, un peu profonde, un peu nourrie, là, il va falloir se bouger aussi, et travailler un peu. Et ce ne sera pas facile, parce qu'en plus, il faut apprendre les codes médiatiques. Tel jeune prêtre qui passe beaucoup à la télé maintenant, il a un staff d'experts en communication qui lui apprennent comment parler. Il était passé dans la fameuse Caroline Fourest, qui est, elle, une vraie tueuse, et il s'est fait entraîner pendant un jour ou deux avant, en disant, voilà comment on intervient devant ce type de personne. Il y a un code, il y a des codes, et on les connaît, et on n'a pas le droit à l'erreur, et c'est très rapide. Mais, bon, ben voilà, ça s'apprend, tout s'apprend. Et là, je crois qu'il y a une parole chrétienne, ou simplement humaine, simplement naturelle, si tant est qu'il soit possible de distinguer les deux, ce dont je ne suis pas très sûr. On pourrait en discuter, mais c'est un autre débat, mais c'est un vrai débat. Il y a une parole autre, enfin là on joue notre peau maintenant, hein. On n'est plus dans des avantages sociaux, on joue notre peau. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants quand même? Voilà, alors c'est pas de ça que je parle, mais enfin en gros c'était pour plaider à un certain réveil, disons pour les chrétiens, parler, donc choisissez, par exemple jeunes chrétiens, choisissez des métiers de parole plutôt que de vous exténuer dans des métiers muets. Pendant que ceux qui n'aiment pas ce que nous représentons se ruent, rue Saint-Guillaume à Sciences Po, où ils font tous des métiers de parole et seront demain dans les médias à dire le contraire de ce qu'on aime. C'est quand même curieux. C'est nous qui sommes amateurs de transmission et nous transmettons peu. Eux qui détestent la transmission, parce que ce sont des post-modernes, post-nietzschéens, ils n'arrêtent pas d'enseigner dogmatiquement. Je crois que le balcon du Vatican, aujourd'hui le plus régulier, quotidien et efficace, c'est Plus belle la vie, tous les soirs à la télé, depuis 10 ans, 15 ans, où on vous prêche tout. Le mariage homo, on fait piquer la grand-mère, tout. La prédication est non-stop.
On termine là. Merci à tous les trois. Merci vraiment à tous les trois. Je donne quelques titres. Je rappelle le titre du livre de Thierry Dominique Aurèche, Éloge de l'action politique, c'est aux éditions Parole et Silence. Alors évidemment, vous avez le livre de Laure Solignac. Alors on est confus, mais on n'en a pas à vendre ce soir.
Oui.
Bon, mais vous savez, on pourra éventuellement vous le commander. Bon, c'est le livre de Laure. Je vous signale qu'il y a un dialogue entre Laure et Emmanuel Falk dans le dernier numéro d'Études franciscaines qui s'intitule Penser en franciscain, qui reprend un certain nombre de choses qui ont été dites ce soir et que je me permets de vous signaler et que vous pouvez prendre pour un prix très très alimentaire à la sortie. Voilà, notre prochain rendez-vous sera le 15 octobre. 15 octobre, une grande soirée qu'on organise avec les éditions franciscaines. Autour du dernier de la vie retrouvée de François d'Assise, justement, qu'on a évoqué tout à l'heure, par Jacques Dallarin. Il y aura, je crois, déjà de prévu François de Chêne qui sera parmi nous. Il y aura Jacques Dallarin et puis d'autres invités. Donc notez bien déjà sur votre agenda, 15 octobre. Vous pouvez aussi renouveler votre adhésion à l'association des amis de la bibliothèque. Vous savez que si on fait ce genre de rencontre, c'est parce qu'il y a une association. Voilà. Et maintenant, vous allez tous pouvoir goûter aux spécialités de Cécile de Cacré, qui vous a préparé encore certainement ces cakes qui sont merveilleux. Et très bon, très bon pour les femmes enceintes. Allez, bonne soirée.
Merci Pierre.